À noter l'arrivée du défenseur de Madrid, Varane, et le retour de Bakary Sagna et de Karim Benzema.
Dominique Boutel, productrice et mère de famille.
Moi, j'adore aller au concert avec mes enfants. Et après, ce sont eux qui ont envie d'y retourner.
Musique au musée, les musiciens de l'Orchestre National de France explorent en musique les trésors des musées. Rendez-vous le 16 février au Muséum National d'Histoire Naturelle et le 23 mars au Musée du Quai Branly à Paris.
La musique comptée, expliquée, jouée, tous ensemble, petits et grands.
Tous nos concerts au 01 56 45 16 et sur concert.radiofrance.fr.
Dimanche sur France Inter,
on va parler du Mali.
Afrique enchantée spéciale.
Ou plutôt, on va laisser parler les artistes maliens.
On vous propose les meilleurs moments du concert Mali All Stars, enregistré ce samedi dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris.
Un voyage musical qui a pour dénominateur commun le studio Bogolan, carrefour de la création musicale à Bamako.
Des stars aux étoiles montantes d'aujourd'hui, tous chanteront le Mali.
Un Mali ouvert et qui croit en sa plus grande richesse, la culture.
Afrique enchantée spéciale Mali, présenté par Soro Solo et Vladimir Cagnolari, dimanche sur France Inter, à partir de 17h.
France Inter,
la voix est libre.
15h05 et voici Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
J'ai un petit souvenir tendre, c'était quand on était en vacances chez ma grand-mère, avec mon frère, mes cousins et mes cousines. Ma grand-mère nous préparait des tartines de beurre, et sur le beurre, elle mettait du chocolat en poudre, et c'était délicieux. J'ai plus de 50 ans et je pense encore à ces tartines.
J'ai entendu la représentante des licenciels hier, ce collectif qui regroupe tous les salariés victimes de plans de licenciement, dire qu'il faudrait une loi pour interdire les licenciements. Alors moi je veux simplement lui rappeler que le 16 février 2012, les sénateurs des formations du Front de Gauche, les socialistes, Europe Écologie Les Verts, avaient voté à l'unanimité un texte qui était présenté par les communistes, et qui donc interdisait les licenciements boursiers. Je rappelle également que la promesse du candidat François Hollande devant les salariés de Goodyear et Fralib de faire voter en urgence une loi interdisant les licenciements dans les groupes qui font des profits. Donc le changement, est, c'est maintenant.
Bonjour là-bas, comme tous les premiers samedis du mois, le repère de Strasbourg se réunira ce samedi 2 février à 15h au bar La Perestroïka rue Tiergarten, près de la gare. Les thèmes du jour seront, comme la parole, libre. Alors rendez-vous samedi 15h à la Perestroïka à Strasbourg. Merci là-bas.
Oui, je suis au moment de la manifestation du Chêne contre la fermeture des petits collèges ardennais de Buzancy et de Duchesne. On est en train de lutter pour la ruralité, pour que ça reste vivant, pour éviter que les gamins fassent 2 heures de route le matin, 2 heures de route le soir, pour le maintien d'une vie sociale dans les petite commune ardennaise. Donc, continuons la lutte.
Je suis Léon Landini, le président de l'amicale des anciens FTP-MOI. Je suis officier de la Légion d'honneur, médaille de la Résistance et grand mutilé de guerre suite au coup reçu lors de mon arrestation. Il y a 70 ans se terminait la bataille de Stalingrad par l'écrasante victoire de l'armée rouge. Jusqu'à cette bataille, mes camarades et moi-même nous battions contre l'occupant avec la conviction que nous allions vaincre. Mais après Stalingrad, notre conviction s'était changée en certitude. Aussi, à l'occasion de ce 70e anniversaire, afin d'honorer et de rendre hommage à tous ces héros qui contribuèrent grandement à notre libération, nous organisons une manifestation place de la bataille de Stalingrad à Paris le samedi 2 février à 15h. Cette manifestation aura lieu en présence de plusieurs ambassadeurs. Tous vos auditeurs sont cordialement invités et je vous remercie par avance. Merci beaucoup.
Merci pour tous ces messages qui me parviennent ici en Tunisie, à Tunis exactement. Nous continuons notre série de reportages et vous venez de l'entendre, c'est le 70e anniversaire de la bataille de Stalingrad et on va revenir sur les reportages que nous avions faits à cette époque, l'époque de la bataille de Stalingrad, mais il y a une dizaine d'années. Churchill disait « les gonds du destin ont tourné à Stalingrad. On oublie trop cette bataille terrible, la bataille la plus terrible et la boucherie la plus énorme de toute l'histoire de l'humanité, et ce qu'elle a eu pour conséquence dans l'histoire du monde et dans notre histoire aussi à nous tous qui sommes là aujourd'hui. Donc Stalingrad, aujourd'hui et demain, et auparavant, on retourne sur le front social en France avec Antoine Chao.
Alors ce matin à 6h30 devant l'usine PSA, à l'entrée du personnel, il y a une vingtaine de vigiles qui sont devant l'entrée et qui veillent à ce que tout se passe bien. Et effectivement, les ouvriers rentrent pour bosser, les cars arrivent, la noria des cars qui passe devant, les tourniquets est en marche.
Mais salut à tous, c'est Agathe de l'usine Citroën d'Aulnay. Donc je voulais faire un petit point sur la grève. Ça fait maintenant 2 semaines qu'on est en grève. On atteint presque les 500 grévistes aujourd'hui, malgré ce que dit la direction. Donc on a en face de nous vraiment un patron de combat. Et malheureusement, le gouvernement qui soutient à fond ce patron de combat, puisque par exemple, on a eu 6 camarades convoqués à la sûreté territoriale, c'est-à-dire que ça émane directement du ministère de l'Intérieur, plus une demande de licenciement pour 4 d'entre nous. Donc dans ces 2 paquets, bah, je fais partie du lot. Donc moi, je me demande de quel côté le gouvernement. Alors, est-ce qu'il est du côté de la mère de famille qui défend son boulot ou du côté de PSA? Bon, de notre côté quand même, hein, on ne perd pas courage, bien sûr, puisque de notre côté, on a quand même beaucoup de soutien qui nous arrive un peu de partout, des particuliers, des artistes. Évidemment, le soutien financier qui arrive aussi, et ça nous fait chaud au cœur. Et puis, le soutien des unions locales. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant des confédérations syndicales, qu'on n'entend pas beaucoup se prononcer sur le problème de la fermeture d'Aulnay et des fermetures d'entreprises et des accords de compétitivité chez Renault. Et voilà, tout ce qui nous tombe sur le dos à nous les travailleurs. Donc voilà, étant donné que le gouvernement nous convoque à la sûreté territoriale, eh ben moi je demande le soutien de tous ceux qui peuvent pour venir demain à Bobigny, à la sûreté territoriale qui se trouve derrière le tribunal de grande instance, 45 rue de Carency à Bobigny, à 10h demain matin, vendredi 1er février. Merci à tous ceux qui pourront nous soutenir, défendre les salariés qui exercent leur droit de grève et défendre bien sûr les 6 camarades menacés d'un procès. Merci à tous, salut.
Alors on va retrouver Fyodor Rylov qui est l'avocat de la CGT de Forestia, qui est une filiale de PSA, qui a obtenu la suspension du plan de licenciement. Il était mardi à l'appel des licenciés devant le ministère du Travail pour demander une loi contre les licenciements boursiers.
Les patrons licencient, licencions les patrons. Les patrons licencient, licencions les patrons.
Alors Fyodor Rylov, vous avez défendu les employés de Forestia qui ont obtenu la suspension donc du plan de licenciement.
Alors absolument, moi j'étais l'avocat, je suis toujours l'avocat de la CGT de Forestia. Forestia, c'est l'équipementier automobile du groupe Peugeot. Et la CGT a engagé une procédure judiciaire pour faire suspendre toute la restructuration actuellement en cours chez PSA. Donc en particulier, la restructuration des sites d'Aulnay, de Rennes par exemple. Et la Cour d'appel de Paris a rendu aujourd'hui une décision qui effectivement met en échec cette procédure de fermeture d'usine et de licenciement. C'est une formidable victoire. C'est un point d'appui pour les salariés pour continuer la bataille qui est engagée depuis juillet 2012. Les salariés n'ont pas attendu une victoire judiciaire pour se mobiliser et montrer leur détermination à faire reculer Peugeot. Donc c'est un point d'appui pour continuer le combat jusqu'à ce qu'on obtienne le retrait définitif du plan de fermeture et de licenciement. C'est ça l'objectif. La donne a changé. Les salariés aujourd'hui vont repartir de plus belle au combat pour obtenir, grâce à leur mobilisation, le retrait définitif du plan de fermeture et des licenciements.
Alors c'est une belle victoire en cette journée où se réunissent justement sous l'égide des licenciels toutes les entreprises qui ont des plans de licenciement.
Absolument, tous les salariés qui sont rassemblés ici subissent la même chose que les Peugeot, c'est-à-dire un plan de licenciement dans une multinationale qui fait des profits en même temps. Et là, il y a une interpellation politique qui vient de ce rassemblement et qui est adressée non seulement au gouvernement, mais à François Hollande, qui a été élu sur la base de promesses comme celle de faire intervenir une loi qui interdirait les licenciements dans les groupes qui font des bénéfices. Ben voilà. Aujourd'hui, il y a toute une série d'éléments qui convergent pour que la gauche change de politique, fasse enfin ce pour quoi elle a été élue, à savoir renforcer les droits des travailleurs, renforcer les droits de ceux qui se battent, et non pas, aux côtés du MEDEF, détricoter le code du travail.
Ouais, salut Daniel, salut l'équipe de la base que j'y suis. Alors ici c'est Christophe, on est à Lille et on y est bien. Et ton émission sur les bonbons, là, franchement, qui m'a fait craquer. Du coup, j'ai filé au magasin, je viens de dépenser un peu plus de 60 euros de bonbons. Là, j'ai des mi-choco, des feuilletés aux noisettes, des bonbons liquides, des patinats aux réglises, gomme d'acacia, des bonbons acidulés de toutes les formes, de toutes les couleurs. Tout ce qu'il faut pour s'éclater.
J'étais abstinent depuis 10 ans et à cause de toi, je viens de replonger dans les mi-choco. Merci Daniel, hein, bravo.
Vivre à l'époque la plus grandiose de l'histoire humaine et faire le zazou physiquement et moralement. Quelle décrépitude et quelle déchéance!
Там, где я нахожусь, là-bas, si je suis.
Au loin, dans la fumée, apparaît Stalingrad.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Aude Merlin. Là-bas, si j'y suis, ni Chagou Nazad, Stalingrad.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors là, c'est terrible. Mamaev Kourkan, là, voilà, la garde qui passe devant nous. Petit soldat qui marche au pas de loi. Ça, c'est un grand jour. La relève de la garde, ils ont 18 ans ces garçons. Hein. Ils ont l'âge de ceux qui sont morts ici, sur le Mamaev Kourkan, c'est-à-dire sur ce mont où aujourd'hui, 60 ans après, on célèbre la victoire de Stalingrad. Et là, on est dans cet endroit, mais stalinissime, soviétissime, une main en béton avec un genre de cornet de glace d'où sort une flamme éternelle. Et puis c'est russe, c'est, j'allais dire c'est soviétique, oui, il y a quelque chose quand même d'un retour ou de quelque chose qui revient, qui a survécu, comme on voudra, une nostalgie. C'est un grand amphithéâtre circulaire tapissé de mosaïques d'or qui se reflètent avec des figurations de bannières. Et si on s'approche, on s'aperçoit que ces bannières sont ornées d'autant de noms, de milliers, des milliers, des milliers de noms. Et par le haut, ouvert sur le ciel, il fait beau aujourd'hui. On aperçoit le visage et le bras tendu avec le poing refermé sur le glaive de la fameuse statue du Mamaev Kourkan, une statue qui fait 90 mètres, je crois, de haut. Relève de la garde.
Сыночка ждет.
Stalingrad, les batteries allemandes ouvrent le feu dans le but d'enrayer une violente attaque soviétique. Dans ce quartier de Stalingrad, la bataille s'est tue. Et voici des vues de la ville morte sur laquelle un ouragan de fer et de feu s'est abattu durant plusieurs mois. Cette grande usine de tracteurs avait été transformée par les Soviets en une usine de chars.
Un ouragan de fer et de feu, des commentaires, des actualités cinématographiques de l'époque. Entre ces deux commentaires, eh bien, 1, 2, 3 millions de morts au total. On ne sait pas exactement aujourd'hui combien d'hommes, de femmes et d'enfants sont morts à Stalingrad au cours des 180 jours de cette incroyable bataille, la plus féroce, la plus barbare et la plus héroïque de l'histoire de l'humanité, selon les historiens. 2 à 3 millions de morts sur les 27 millions de victimes de la Grande Guerre patriotique, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale côté soviétique. Donc 60e anniversaire, c'est aujourd'hui que sur cette colline, le Mamaev Kourgan, les habitants de la ville et tous sont là, et des gens venus de loin, 20 heures de train depuis Moscou pour assister à cette journée. Beaucoup de vétérans, de personnes âgées, c'est 80 ans, puisque c'était en 1943, et pour combattre, il fallait au moins avoir 16 ans, 17 ans, qui sont là, des messieurs, des dames aussi, qui se sont battues, ou bien qui étaient infirmières, mais certaines de ces dames se sont bel et bien battues, on en a rencontré beaucoup, et puis elles sont évidemment, et ils sont évidemment, avec ces médailles, ces fameuses médailles qui ont évidemment sont presque liés, c'est presque un symbole maintenant de ces ex-soviétiques. Alors évidemment, le lieu est pompeux, le lieu est emphatique, le lieu est boursouflé, le lieu est éminemment stalinien, la ville a été entièrement rasée et entièrement reconstruite, et après la guerre, et spécialement cet endroit de mémoire, de culte, qu'est le Mamaev Kourgan. Alors, on y a la larme facile, l'émotion très grande, la vantardise et les fanfaronnades des anciens combattants, bien évidemment, mais, n'empêche, à Stalingrad, comme partout, comme aujourd'hui, comme dans 60 ans, peut-être à Bagdad, il y aura des minutes de silence. Et à quoi pense-t-on pendant les minutes de silence ? Est-ce qu'on pense plus jamais ça, vraiment plus jamais ça, ou bien est-ce qu'on est en train de préparer et de renouveler les forces pour demain ? Une énigme qui est notre détresse, une de nos détresses fondamentales, celle de la provocation au combat, qui est la séduction absolue du mal, comme disait Kafka. Car si nous détestons la guerre, il y a des moments où il faut la faire, où il a fallu la faire. Et en 1941, le 22 juin, au petit matin, lorsque les armées du Reich, 4 millions d'hommes au total, envahissent l'URSS, eh bien, c'est une guerre de civilisation, c'est une guerre de race, c'est une guerre de tout ce qu'on veut, mais c'est une guerre contre un peuple, c'est une guerre pour conquérir des territoires. C'est le Drang nach Osten, disait Hitler, c'était la poussée vers l'Est. Il en rêvait, le petit Adolphe, qui, après avoir sans problème envahi la France, la Pologne et les Balkans, eh bien, voulait réaliser son rêve d'un espace vital, conquérir un espace vital nécessaire à son empire, à l'empire allemand, vers l'Est. Donc, le 22 juin, au petit matin, attaque de l'URSS par le Reich. C'est une guerre contre les Slaves contre les communistes, contre les Juifs, c'est une croisade européenne contre le bolchevisme. On entendra, j'espère, des documents français qui vont dans ce sens, qui appuient cette idée contre la pieuvre judéo-bolchevique. C'est une Rassenkampf, c'est-à-dire une guerre de race. La propagande a endoctriné les soldats allemands. 3350 chars, 7000 canons, 2000 avions, 600 000 chevaux. La campagne sera très rapide. La guerre avec la Russie ne durera que quelques semaines. Quelques semaines. Toutes les guerres commencent par ne durer que quelques semaines. On n'avait même pas prévu de vêtements pour l'hiver. C'est Blitzkrieg. La Blitzkrieg, c'est-à-dire la guerre éclair. On connaît l'histoire sur ce front de 3000 kilomètres qui va se constituer. Dans un premier temps, Staline n'y croit pas. L'armée rouge est prise de court. L'URSS est prise au dépourvu. Dans les jours qui suivent cette attaque, des dizaines de milliers de tués dans les tout premiers jours, des centaines de milliers de prisonniers. En 9 heures, le deuxième jour, le 23 juin 1941, l'aviation allemande détruit 1200 avions soviétiques. Et alors, que va faire Staline ? Eh bien, il va faire appel non plus à la lutte des classes, non plus à la dictature du prolétariat, mais à la patrie, à la mère patrie. Il va évoquer Alexandre Nevsky, il va évoquer Pouchkine, tout ce qui tient au cœur et aux tripes des Russes, c'est la mystique de la patrie. Et 4 millions de personnes, 4 millions sont volontaires ou se sentent obligés peut-être pour s'engager dans la milice, pour aller se battre tout de suite, à main nue, parfois sans uniforme, parfois sans armes. Ils sont jetés contre les blindés de la Wehrmacht. C'est une boucherie. Les chefs militaires allemands sont suffoqués de la prodigieuse quantité de vie humaine que les autorités soviétiques et l'encadrement militaire soviétique a la possibilité de gâcher. Les chefs militaires allemands avaient pensé qu'aucune société gouvernée par la terreur politique ne pourrait résister à une attaque extérieure. Et cette terreur, elle était très grande. En Ukraine, par exemple, entre 1932 et 1933, la famine organisée par Staline fit 5 millions de victimes. C'est dire que les Ukrainiens n'avaient pas trop envie de se battre du côté soviétique. Et on sait l'accueil qu'une partie de ces Ukrainiens firent aux armées du Reich lorsqu'elles entrèrent en Ukraine. Alors après un flottement, Staline fait donc appel à la Grande Guerre Patriotique. La Grande Guerre Patriotique, c'était les termes même utilisés en 1812 contre les armées napoléoniennes. Et les choses, peu à peu, vont s'aggraver. Pour ce qui concerne Stalingrad, qu'on va évoquer aujourd'hui avec l'historien anglais Anthony Beevor, ça va être dans un premier temps, après que les armées du Reich cernent et prient Stalingrad, entourent Stalingrad et bombardent Stalingrad, ça va être d'abord ce qu'on appellera Rattenkrieg, c'est-à-dire la guerre des rats. Et puis, les choses changeront, basculeront, le fameux 19 novembre, et puis le 2 février, retournement total, ce sera la victoire. Et c'est le retournement, non seulement c'est une victoire inespérée pour l'Union soviétique, mais cette victoire après celle de Moscou, qu'il ne faut jamais oublier. Il faut bien rappeler que les armées du Reich ne sont jamais entrées dans Moscou, mais c'est à Stalingrad que la guerre a fait demi-tour et que, comme disait Churchill, les gonds du destin ont changé. Alors, Anthony Beevor, je le disais, est un historien anglais. Il est l'auteur d'un livre absolument remarquable, qui est un best-seller vendu dans le monde entier et qui retrace cette épopée extraordinaire de la bataille de Stalingrad. Évidemment que le plus grand livre sur cette bataille, c'est celui de Vassili Grossman, mais Vassili Grossman n'est plus là. On est donc avec Anthony Beevor, qui nous raconte précisément ce que fut cette Rattenkrieg.
Rattenkrieg durait du mois de septembre jusqu'au mois de novembre. Okay. À partir du mois de novembre, on parle de l'encerclement.
C'est ça, 19 novembre, on situe le renversement au 19 novembre.
Exactement, parce qu'à partir du 19 novembre, les batailles dans la cité même étaient beaucoup moins intenses. Parce que les Allemands n'avaient pas les munitions, c'est-à-dire il fallait se défendre. Ils ne pouvaient pas attaquer comme ils avaient fait dans le passé. Mais ils avaient complètement sous-estimé la capacité de l'armée rouge de monter une attaque efficace. La stratégie évoluée par le maréchal Joukov et le général Vasilevski, parce que ensemble ces deux avaient choisi la stratégie de l'encerclement, mais de l'encerclement en profondeur. Staline voulait avoir un petit encerclement qui aurait échoué, mais cet encerclement en profondeur était vraiment la victoire à Stalingrad. Et le moment qu'ils ont été entourés par cette opération Uranus, qui était tellement choquant pour les Allemands, en novembre, fin novembre 1942, que le moment que cette armée encercle, il faut se rappeler, un tiers d'un million d'hommes, c'était la plus grande armée allemande de toute la Wehrmacht, a été complètement entouré. C'était impossible en Allemagne.
Comment ça a été possible, ça? C'est que Staline avait réussi à reconstruire, à réinstaller des usines d'armement plus à l'est.
Oui, toutes ces usines de chars, surtout le fameux T-34, étaient en train d'être construites dans les usines à Tcheliabinsk, comme on s'est appelé Tankograd. C'est-à-dire 24 heures sur 24, les lignes roulaient dans les usines, qui étaient souvent au plein air, c'est-à-dire ils étaient construits dans la neige pour faire marcher les lignes de production. Ce char était très utile parce que c'était très simple et bien pour la neige.
À l'extrême nord du front de l'Est, les pionniers allemands déblaient la route obstruée par d'incessantes chutes de neige. Ce chasse-neige effectue en un jour un travail supérieur à celui que pourraient accomplir 7000 hommes. Jour de grand nettoyage. La neige est un détachant excellent et qui ne manque pas. La dure bataille défensive continue à faire rage. Les avions soviétiques attaquent. Avec impatience par les avant-postes, l'arrivée de la soupe. À leur tour, les chars ennemis tentent de percer les lignes allemandes. Le lendemain, vision du champ de bataille.
Les gens sont très émus quand même, hein. C'est un grand moment. On ne sait pas très bien ce qui se passe. Est-ce qu'ils sont en train de renouer avec leur histoire, une partie de leur histoire? La garde sort comme ça, et dehors c'est la neige, et avec ces petites silhouettes noires entre les sapins. Et là il y a une dame. Bonjour, comment vous vous appelez?
Valentine Vassilievna.
Valentine Vassilievna.
Je regardais les noms là, sur les mosaïques. Il y a des noms de gens que vous connaissez ici?
Oui, j'ai trouvé mon père ici. Ici, il y a le nom de Bagatov, Vassili, avec le même patronyme. Alors, je me dis que c'est peut-être lui et que c'est son nom qui a été inscrit ici.
Ah, voilà.
Sergent,
il était sergent.
Et vous, vous étiez enfant? Vous aviez quel âge au moment de la bataille de Stalingrad?
10 ans environ.
De quoi vous vous souvenez?
De tout.
Oui.
Mon frère a été tué par les Allemands quand ils sont
rentrés.
Ils l'ont fusillé.
Il avait quel âge?
Il était né en 29. Il devait avoir environ 12 ans.
Он высоко повылез, и расстреляли его.
Oui.
И мама кричала, но они ничего даже и на маму наставили, на нас.
Он était dans les tranchées, lui sortait, потом, ils l'ont fusillé.
И мы его во дворе же похоронили.
И après, там бомбили тогда. Il y avait des bombardements partout.
Mais vous êtes resté dans le chaudron, à l'intérieur de la ville pendant tout le temps.
Да. Вот не это, мы вот здесь Мамаев, а мы жили, ну, 5 остановок в Краснооктябрьском районе мы жили.
Ici c'est le Мамаев, et nous on vivait à 5 arrêts de bus dans le quartier Octobre Rouge. Да.
Une mémoire parmi d'autres, celle de cette femme, Valentine Vassilievna, dont le petit frère à l'époque, 12 ans, a été fusillé en sortant d'une tranchée. Il n'y a pas un Russe, un ex-soviétique qui n'ait pas perdu quelqu'un dans sa famille, un père, un grand-père. Il faut penser à ça quand on va quelque part. Quelle est la mémoire des gens? Pourquoi? Il y a ça dans les esprits, il y a ça dans les âmes. Hein, on va employer un mot bien russe. Dans les âmes. Et on peut être étonné qu'il y ait eu des civils qui soient restés dans cette ville de Stalingrad, qui a été, je le répète encore une fois, un champ de bataille d'une cruauté, d'une barbarie infinie. Volgograd aujourd'hui, enfin Stalingrad hier, est une ville qui est le long de la Volga. Aujourd'hui, c'est une ville qui fait 80 km de long, qui est tout en longueur comme ça. Et on aurait pu croire qu'on allait évacuer les civils. Femmes, familles, enfants, etc. Alors on en a évacué une partie par bateau, barque, sur la Volga, ce qui était évidemment très périlleux parce qu'aussitôt l'artillerie allemande tirait sur ces embarcations, très exposées et très visibles, mais nuitamment on pouvait espérer franchir la Volga et après être réfugié. Mais on affirme, et les historiens le prouvent de plus en plus, parce qu'on a des archives auxquelles on a accès aujourd'hui, Staline avait dit « on ne défend pas une ville vide ». Donc ça voulait dire qu'il fallait que des civils restent dans la ville pour que les hommes, pour que les soldats, et une partie de femmes aussi, aient envie de sauver cette ville. Sans ces civils, on pensait qu'il n'y aurait pas l'énergie, l'envie, l'héroïsme nécessaire, le sacrifice aussi, parce qu'il y a énormément de sacrifices humains, incroyables, c'est incroyable, dans cette ville. Et donc et ben cette femme que nous rencontrons, Valentine Vassilievna, faisait partie de ces civils, de ces enfants à l'époque, qui sont donc restés dans cette ville. On est dans ce lieu de mémoire, évidemment, pompeux, évidemment, mis en scène, mais c'est évidemment un moment tout à fait bouleversant, anniversaire de la victoire du 2 février 1943.
Vous croyez que tout ça a été utile?
En
quoi ça pouvait être utile? Mais non, c'était pas utile.
Сколько людей погибло.
Il y a tellement de gens qui sont morts. Quoi,
у нас и бабушки все поумирали тут во время.
Toutes les grand-mères,
закапывали их вот так.
On les enterrait.
Как это когда бомбежки копали кое-как.
Quand il y avait les bombardements, il fallait enterrer les gens.
Et aujourd'hui, vous voulez qu'on rebaptise la ville Stalingrad ou vous pensez qu'il faut que la ville continue de s'appeler Volgograd?
Нет, желательно, конечно. Вроде бы столько людей погибло в
Сталинграде,
и вдруг переименовали на
Волгу. Это было бы все-таки souhaitable, потому что есть так много людей, которые умерли в Сталинграде.
Документы,
что
мы родились в метрике
из Сталинграда.
Да. Рождены мы, документы у нас в метрике, где Сталинград, а теперь это Волгоград.
Sur nos papiers, sur nos actes de naissance, on a écrit Сталинград. C'est le nom de Сталинград qui est écrit.
А qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui?
Ну, пришла, букетик положила, цветочек положила на могилу.
Sur la tombe.
Je
suis venue pour écouter, pour voir.
Vous êtes contente que Poutine vienne aujourd'hui?
Non, pourquoi il vient?
On n'est pas contre. Qu'il vienne, on n'est pas contre. On n'est pas contre, bien sûr. On ne sait pas ce qui va se passer après. C'est la vie qui nous le montrera. Qui sait?
На Мамаевом кургане тишина. За Мамаевым курганом тишина. В том кургане похоронен. плещется волна в том кургане. Похоронена война, в мирный берег тихо плещется волна. Вот уж вечер волгоградский настает, а старушка не уходит, сына ждет. В мирный берег тихо плещется волна, разговаривает с матерью она. В мирный берег тихо плещется волна, разговаривает с матерью она.
Même aujourd'hui, ils sont toujours des millions à connaître cette mélodie par cœur, le chant de, du Mamaev Kourgan, sur lequel nous nous trouvons, cette colline à Volgograd, ex-Stalingrad, pour commémorer le 60e anniversaire de cette bataille et de cette victoire. Victoire, justement, retrouve l'historien anglais Anthony Beevor. Comment les habitants de Stalingrad vivent cette victoire? Dans quel état ils sont le jour, ce fameux 2 février 1943?
Ils étaient beaucoup trop faibles. Ils étaient beaucoup trop faibles et beaucoup trop choqués par leur expérience de célébrer. Mais ce qui s'était arrivé, que le moment où le cessez-le-feu arrivait, tous les soldats qui étaient sur la rive orientale du Volga avaient traversé la glace en marchant avec toute la nourriture qu'ils pouvaient trouver pour aller l'emmener aux civils toujours dans la cité, dans le champ de bataille. La chose la plus étonnante de toute la bataille était qu'à la fin de la bataille, on avait trouvé 10 000 civils toujours vivants dans ces ruines au milieu de ce champ de bataille, dont 1 000 enfants. Bien sûr, ces enfants étaient complètement traumatisés, des orphelins dans un état pitoyable. Ils ont survécu en mangeant des racines. Et souvent, ils ont gagné une miette de pain ou quelque chose comme ça d'un soldat allemand pendant la bataille. Parce que les Allemands avaient soif, il n'y avait pas de l'eau pure à Stalingrad. Et donc, pour éviter les tireurs d'élite soviétiques, et ils avaient donné un peu de pain aux petits enfants russes pour remplir leurs gourdes dans le Volga. Mais le moment que les autorités soviétiques avaient compris ce qui arrivait, ils avaient donné les ordres aux tireurs d'élite d'abattre ces enfants russes pour empêcher les Allemands d'avoir de l'eau.
Des enfants qui lui apportent des œillets.
Je suis très ému.
Dans la région de Rostov.
On m'a envoyé ici.
C'est la perte de l'humanité. Il n'y a rien qui est préservé. Parce que les Allemands sont tout autour. On est complètement encerclés. Et alors, cœur et âme, je pars avec vous à Stalingrad pour les repousser. Et tout était occupé par les Allemands. Heil Hitler!
Le grand-père est là avec sa canne, donc il se sert comme un fusil. Il agite ses œillets, on vient de lui donner des œillets. On est devant ce monument au soleil, il fait très froid. Et tout autour de ce grand-père qui raconte héroïquement son truc, il y a tout un tas de gens qui écoutent entre le respect, l'émotion, le sourire, les larmes.
Après, quand on a réussi à rassembler toutes les barques, à ce moment-là.
Ferdinand,
ils nous ont tiré dessus. 14
années. Ni bataillon, à pas de pirote, nous 300 человек.
On était 300 personnes à peu près, c'était pas un bataillon. Et eux, ils étaient plus de 12 000.
300 contre 12 000.
Vous comprenez comment ?
Alors on sourit 300 contre 12 000. Et c'est possible, et c'est tout à fait possible. D'ailleurs, dans la foule, dans le cercle de visiteurs, de gens qui sont là pour la commémoration, qui s'est formé autour de ce grand-père avec ses médailles, avec sa canne, avec son chapeau de fourrure qui fait ce récit parce qu'on est là avec notre micro et puis il y a une Française, il y a une traductrice qui est là, alors ça fait un attroupement, mais on nous oublie très vite, on oublie les journalistes et on écoute le récit, alors on écoute en souriant, on écoute ébahi, on savait pas, on écoute avec émotion parce que ça renvoie à des histoires personnel, à cette mémoire dont je parlais tout à l'heure, et 300 contre 12 000, c'est bien sûr, ça semble fanfaron. Non, ça n'était pas nécessairement. Et puis, si c'est pas tout à fait vrai à ce moment-là, ça l'était vrai. Ça a été vrai pour autre chose. C'est ainsi que la mémoire se transmet. Pratiquement toute l'histoire qui se transmet de génération en génération à travers les siècles, c'est très souvent des histoires de bataille, des histoires de guerre, des histoires d'héroïsme, des histoires où on était à la limite. Et là, 60 ans après, c'est le jour de ce grand-père dans ce cercle de Russes.
C'était
le 15 au matin.
А у него золотые браслеты.
Il avait un bracelet en or. Et le camarade
мне говорит: "Коля, это награбил, дай ему".
Est-ce que c'est à lui ça? On me l'a offert à Paris.
Paris, je говорит, подарил.
C'est des bobards, il a tué quelqu'un et il a volé ce bracelet en or sur la personne morte. Kolia, tue-le, exécute-le.
Et vous l'avez tué ?
Oui, je l'ai fusillé, comme ça.
Oui.
Parce que c'est pas un humain, c'est de la vermine. Voilà.
Et nous, tout de suite,
j'ai participé au combat. Quand on est parti ici, le matin, sur le Mamaïev Kourgan, on venait d'Octobre Rouge. On venait de l'usine Octobre Rouge et on est parti vers la Volga.
Et là,
on a enjambé des cadavres. Il y avait des obus. On a tiré dessus.
Il crie. Allô-ka, Bronibolchik!
Il crie, tirez les blindés, tirez.
Et
là, à ce moment-là, nous, on est partis courageusement, on criait «Hurra! Hurra!» Et l'autre criait «Hitler kaput!»
Le récit continue, le grand-père continue de raconter avec ses œillets à la main, avec sa canne, quand il a besoin d'expliquer un tir ou quelque chose. Et il est entouré d'une centaine de personnes, peut-être, avec ce rayon de soleil, sur les tchapkas, sur les regards qui le suivent avec beaucoup d'attention, les gosses qui suivent le récit, d'autres qui sourient un petit peu, mais avec beaucoup de tendresse, et c'est une célébration de quelque chose. Et on est sur le Mamaev Kourgan, devant ce mur, avec des bas-reliefs qui représentent des combattants, qui représentent enfin les grands moments, l'apogée du stalinisme, mais aussi un moment où le monde a basculé grâce au sacrifice d'hommes comme celui-là.
Pour que vivent et leurs descendants, et vous, et nous, pour qu'on puisse s'embrasser et pour qu'on puisse s'aimer, et qu'il y ait la paix, la bonté soit toujours victorieuse sur le mal.
Дороги были до тумана, холода тревоги, до степной буря. Знать не можешь доли своей.
крылья сложишь посреди степи.
Jour de profonde émotion à Volgograd, le grand-père qui fait son récit, on l'écoute, on évoque des moments d'héroïsme, il y en a beaucoup d'autres, durant toute cette bataille et cette grande guerre, les journaux et puis la propagande racontaient des exploits plus héroïques les uns que les autres, mais n'oublions pas que Staline avait lancé un avertissement aux civils comme aux militaires par une citation de Lénine, que voici, ceux qui n'assistent pas à l'armée rouge par tous les moyens et ne se conforment pas à son ordre et à sa discipline sont des traîtres et ils doivent être tués sans pitié. C'était une guerre sans pitié. Alors, à quoi était dû cet héroïsme ? La question reste entière. Dans la foule, dans cette foule de ce jour-là, un très beau ciel bleu, il fait très froid, c'est un beau temps russe. Il y a un homme qui vient d'écouter le grand-père et son récit est héroïque et qui a envie de parler.
Les gens qui ont combattu.
Qu'est-ce que vous pensez, vous battus. Vous avez une cinquantaine d'années.
J'ai 57 ans.
Oui. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, c'est une journée comme aujourd'hui?
Я
смотрю по большому счету. Это наши отцы завоевали.
Ce sont нos pères qui se sont battus. Et vous savez, je suis en train de vous parler, j'ai les larmes qui montent aux yeux. Il y a mon père qui est mort.
Да, он у меня умер в 30 лет.
Il est mort à 30 ans.
Да, он воевал здесь.
Ici, il a combattu ici.
Я вот представляете, мне тяжело даже говорить.
C'est très difficile pour moi d'en parler, vous voyez.
Отец, вот этот отец,
vous voyez ce petit père
là. Перешел это.
C'est vrai, il a vécu tout ça.
Vous pensez que l'Union soviétique a trompé ces hommes ?
Oui, oui. Tous ont été trompés. Et le pouvoir continue de nous tromper. Et aujourd'hui encore. Des gens, des vieux, des petits vieux. Des petits vieux comme lui et puis des gens comme nous, retraités. Par exemple, moi, je peux me faire arrêter parce que je parle trop, là. Est-ce que si je vous parle ici, on ne va pas m'arrêter ?
Vous croyez, non ?
Bien sûr que c'est possible. Tout est possible chez nous.
À nouveau ? À nouveau ?
J'aime, moi, je suis un homme de vérité, je n'aime que la vérité. Le problème, c'est que la vérité, elle crève toujours les yeux. Vivez avec des petits vieux comme lui, et vivez à notre époque, je peux vous emmener dans des immeubles, dans des appartements où les gens vivent dans un état de totale misère. Des gens comme lui. On leur donne 1500 roubles de retraite et pour les médicaments, ils doivent dépenser 1200, 1300 roubles. Comment on peut vivre comme ça ? Comment on peut vivre une personne comme ça ? C'est terrible. C'est terrible. On vit une époque terrible.
Et ces vétérans à qui on disait comme ça, d'une façon un peu étourdie, vous avez des belles médailles, nous a dit, oui, mais c'est dommage qu'on ne puisse pas les manger. C'est dommage qu'on ne puisse pas les manger. Et ça correspond à ce que nous dit cet homme qui est là et qui a compris pas mal de choses. Les jeunes qui regardent aussi ces faits héroïques et qui ont les yeux qui brillent sans qu'on puisse savoir exactement, sans qu'ils puissent savoir non plus eux-mêmes s'ils rejettent cette horreur ou bien si au contraire ils rêvent à leur tour d'entrer dans la carrière quand leurs aînés n'y seront plus. Ce que fut cette victoire, jubilation et caution, l'historien anglais Anthony Beevor. Et comment ça a été reçu, alors, cette victoire?
Bien sûr, la réaction partout en Russie était une jubilation immense, parce que c'était impensable, ou presque impensable, de battre les Allemands, mais de battre les Allemands avec leur propre stratégie, avec leur propre tactique d'encerclement comme ça. Et pour la première fois, ils avaient vraiment le courage et la foi que l'Allemagne sera battue, les nazis seront battus. À partir de la bataille de Stalingrad, c'était inévitable que l'Allemagne nazie sera écrasée et donc la résistance prenait une ampleur beaucoup plus importante, pas seulement en France, mais partout dans les autres pays occupés de l'Europe. Mais aussi, il faut voir que Stalingrad, par l'autosacrifice des Russes, mettait les alliés de l'Ouest, les Anglais et les Américains, dans une situation où il fallait traiter Staline et l'Union soviétique d'une façon très différente. Et c'était directement comme résultat de Stalingrad que Staline, à la conférence de Téhéran, pouvait s'imposer comme le superpower, comme la superpuissance. Et c'était le moment où l'Union soviétique n'était plus une grande puissance, mais vraiment une superpuissance.
Et puis, évidemment, l'importance qu'aura cette victoire pour les partis communistes dans le monde, et notamment, évidemment, pour le Parti communiste français, qui deviendra le parti le plus stalinien.
La fille aînée de l'Église stalinienne, oui, oui.
Ah oui, c'est comme ça qu'on dit?
Oui, oui.
Comment vous vous appelez ?
Pauline Vassilievna.
Je m'appelle Pauline Vassilievna.
Et vous avez quel âge ?
81.
81. Donc vous aviez 21 ans il y a 60 ans, c'est-à-dire au moment de la bataille de Stalingrad. Donc vous avez vu les Allemands arriver ?
Bien sûr, comment aurais-je pu ne pas les voir ? On a tout vu. Il y avait des bombardements, il y avait de tels bombardements. Toutes les maisons brûlées, la terre brûlée. Mes deux frères ont été tués à la guerre. Ils étaient jeunes, ils n'étaient pas encore mariés. Tout jeune, de 17 et 18 ans.
Elle pleure, cette femme, c'est terrible. Hein, 60 ans après, on a l'impression que c'est...
Et après, quand Stalingrad a été libéré, tout était détruit. Il n'y avait pas de logement. Et notre maison était complètement détruite, mais on a bricolé, on a rafistolé une petite cabane et on a vécu dedans.
Et pourquoi vous êtes venu aujourd'hui ?
Pour voir, on a dit que Poutine allait venir. À deux heures, Poutine viendra. Je suis venu pour le voir vivant.
Vous l'aimez bien ?
Oh, beaucoup.
Qu'est-ce que vous préférez, Poutine ou Staline ?
C'est-à-dire que Staline, il n'est plus, et qui s'occupe de nous maintenant, c'est Poutine.
C'est une journée d'émotion.
J'ai allumé la télé, je me suis mise à pleurer, je suis venue ici, je continue de pleurer.
Bon, mais vous allez peut-être voir Poutine.
Bah, je vais rester assise ici. Il va arriver de là-bas. Il va passer par là. Je le verrai comme ça. Il va arriver par cette allée.
Il ne faut pas le louper.
C'est pour ça que je me suis mise là.
Ah ouais,
c'est bien. Bah oui, dans un quart d'heure.
C'était Stalingrad, Mamaïev Kurgan, un reportage de Daniel Mermet avec Aude Merlin, diffusé pour la première fois le 7 mars 2003. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, franceinter.fr, sur le site la-bas.org, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. L'émission d'aujourd'hui a été réalisée par Antoine Chao, Coy Nguyen, Lucia Kuhn et Chloé Sanchez et préparée par Grégory Salomonovitch. À la technique, Michel Bézikian et Éric Morin. Marion Dupas attend dès à présent vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
C'est toi, Pierre, le petit rouleur? Ah bah c'est pas comme ça que tu vas amasser de la mousse.
C'est comme ça que je vais faire des économies.
Grâce à la Matmut.
5000 km en un an, c'est déjà pas mal si tu vas pas travailler avec ta voiture.
Merci la Matmut d'avoir pensé à nous, les petits rouleurs.
Offre tarifaire soumise à condition, disponible en agence ou sur matmut.fr.
France Inter, il est 16h. Les informations, Delphine Simon, bonjour.
Le dopage dans le cyclisme, décidément les langues se délient après les aveux très médiatisés de Lance Armstrong. C'est le Danois Rasmussen qui vient de reconnaître s'être dopé. Il l'a fait lors d'une conférence de presse retransmise à la télévision danoise. Il affirme avoir utilisé des produits et des méthodes dopants pendant 12 ans et il annonce qu'il arrête la compétition. Des élus socialistes de Picardie en appellent au gouvernement. Ils lui demandent de rejeter la décision de Goodyear de fermer son usine d'Amiens Nord dans la Somme. Fermeture qui entraînerait 1173 suppressions de postes, sans compter les sous-traitants. Les salariés accusent le coup, mais ils ne baissent pas les bras. Appel à la grève des syndicats, message au gouvernement et rendez-vous le 12 février, le jour d'un nouveau comité central d'entreprise au siège du groupe américain. 5,5 millions de fonctionnaires appelés à une journée de grève et de manifestation, la première depuis l'arrivée à l'Élysée de François Hollande. Ils dénoncent le gel des salaires depuis 2010 et les suppressions d'emplois. Dans l'éducation nationale, le ministère compte cet après-midi 18% d'instituteurs grévistes en maternelle et dans le primaire. À l'étranger, les chefs de la diplomatie européenne tirent le signal d'alarme au Mali. Ils demandent aux autorités de Bamako d'enquêter immédiatement sur d'éventuelles représailles contre les Touaregs et contre les minorités arabes du nord du pays. Les Européens proposent le déploiement d'observateurs, tout comme l'organisation Human Rights Watch. De son côté, la Cour pénale internationale a mis en garde Bamako. Damas proteste officiellement auprès de l'ONU après ce qui semble un raid israélien en territoire syrien. Israël aurait visé hier un centre militaire syrien, ce qui serait une première depuis le début du soulèvement contre Bachar el-Assad. La Russie, alliée de Damas, s'est dit très préoccupée. En France, la suspension de Diane 35 suscite certaines réserves chez les gynécologues. Le syndicat national des gynécologues obstétriciens défend cet après-midi l'intérêt contraceptif de ce médicament. Il présente, selon lui, l'avantage de traiter en même temps l'acné, alors que bien des pilules de deuxième génération peuvent l'aggraver. Les gynécologues réclament des analyses rigoureuses des 4 décès déplorés en 25 ans. Les autorités sanitaires vont arrêter, je vous le rappelle, les ventes de Diane 35 d'ici 3 mois. David Beckham est à Paris. Il a été vu tout à l'heure à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière où le PSG fait habituellement passer les visites médicales à ses futurs recrues. La pop star du foot anglais va-t-il signer au Paris Saint-Germain? Le club annonce une conférence de presse tout à l'heure à 17h au Parc des Princes. Pour terminer, le musée du Louvre va pouvoir conserver 2 statuettes médiévales en ivoire grâce notamment à 4000 généreux donateurs individuels. Depuis le mois d'octobre, ses mécènes, la plupart français, ont donné 800 000 euros. Une souscription qui va donc permettre aux 2 statuettes de rester dans les collections du Louvre.
Partout ailleurs, Éric Valmire.
Partout ailleurs en Syrie, dans les camps de réfugiés à la frontière libanaise, partout ailleurs au Cambodge, à 3 jours de la crémation de Sihanouk, la difficulté d'un régime autoritaire face à des citoyens libérés de la peur et qui manifestent leur opposition. Invité de partout ailleurs, le juge Marcel Lemonde, magistrat français du tribunal international pour les Khmers Rouges. Partout ailleurs à Hollywood, le film de Bigelow sur la traque de Ben Laden soulève de nombreuses polémiques.
Partout ailleurs, Éric Valmire, demain sur France Inter, à partir de 19h20.
France Inter,
la voix est libre.
16h04, c'est l'heure de retrouver Frédéric Lodéon en direct de Nantes.
Carrefour de l'Odéon.
Bonjour Nantes, bonjour à vous, chers amis. Et vive le parc de Procès, la Chésine, l'Erdre, la Loire, et tout ça, mais oui, les Civelles, le curé nantais, votre bonne humeur, votre joie de vivre, et évidemment la folle journée. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Juliette Hurel, flûtiste. Bonjour Juliette.
Bonjour.
Un banc pour Juliette. Harry Van Beek, chef d'orchestre.
Bonjour.
Geneviève Laurenceau, violoniste. Et Jean-Jacques Kotorov va nous rejoindre, qui est violoniste et chef d'orchestre. Alors on va commencer sur ma gauche, physiquement, là, donc avec Harry Van Beek et Juliette Hurel, qui n'arrêtent jamais. On va quand même parler, voilà, vous pourrez crier après, merci beaucoup. On va parler parce que vous parliez beaucoup avant l'émission. Alors qu'est-ce que vous avez à vous dire comme ça? D'abord, je peux dévoiler certaines choses, c'est que vous êtes, on dit en Hollande, mais en fait, il faut dire aux Pays-Bas, parce qu'on se fait tirer les oreilles si on dit ça. Vous êtes flûtiste soliste au concert, dans cette salle de concert avec l'orchestre de Rotterdam, magnifique. Hein. Et puis, Harry Van Beek, bah, vous êtes né néerlandais.
Tous,
en plus, voilà. Donc, ouais. Vous avez plein de choses. Et j'ai entendu dire que Juliette vous apprend des mots en hollandais. C'est possible, ça, en néerlandais? Non, c'est une plaisante.
C'est bien possible. Et Juliette fait très bien.
En fait, Harry me demandait si je parlais aussi bien hollandais que lui, le français. Oui. Je lui ai dit bien sûr, et je lui ai sorti des mots incongrus qu'il connaît quand même, et qui sont très peu utilisés en néerlandais, comme Vogelverschrikker.
Oui, alors traduction, si c'est possible, devant une assemblée aussi distinguée, n'est-ce pas?
Épouvantail.
Oh, bah, c'est ça, bah, ça ne concerne personne ici, évidemment. Bon, on va vous entendre en musique tout de suite. Il y a un disque que j'ai passé beaucoup, Harry, c'est le disque Rodrigo, le concerto d'Aranjuez, avec notre cher Emmanuel Rosfelder, qui est partout ici à la cité, paraît-il.
Ouais. Oui,
j'ai
oui.
pas encore vu. Guitariste merveilleux. On l'a beaucoup passé déjà sur France Inter, sur France Musique aussi. Donc, je vous propose un disque que vous avez fait vous-même, tous les deux, Carl-Philippe Emmanuel Bach, avec un orchestre que vous avez dirigé précédemment, l'orchestre d'Auvergne, et qui a été aussi dirigé par Jean-Jacques Kantorov, qui va venir tout à l'heure,
voilà.
Et puis qui est présent aussi avec son chef Roberto Forest Vesses, et puis donc cette évolution de la vie qui fait que maintenant vous êtes chef de l'orchestre de Picardie, et vous m'avez dit je suis très heureux là-bas. On va
Ah oui, oui.
Bah, même tout de suite, on peut en parler tout de suite parce que...
Si vous voulez. Non, mais c'est un orchestre qui est un peu perdu dans le nord, peut-être en France.
Bon, c'est pas très loin de Paris quand même,
mais
même de Nantes.
C'est un orchestre avec une ambiance formidable, oui. Un potentiel énorme. Tout le monde a énormément envie de faire un travail profond.
Oui.
Et on est très heureux d'être ici pour montrer notre orchestre Picardie à un grand public.
Oui, ben voilà, le grand public, il vous suit, il court après vous. On a tous les programmes, des centaines de milliers de tickets, des personnes passionnées de musique, sympathiques en plus. Voilà. Là, vous pouvez y aller encore un coup. Là. Oui. Et tout de suite, Carl-Philippe Emmanuel Bach. Bach. Concerto pour flûte, mais qui a été écrit aussi pour le clavecin ou le violoncelle, j'en sais quelque chose, j'ai usé mes doigts sur cette partition assez difficile et très belle. Allegro assai.
Thank you.
Voilà, les grands assailles.